temps, le bac est pour toujours. Ce sont les grands succès que votre disque jockey a sélectionné pour vous faire danser. Prêt ?
Nous sommes prêts
pour un voyage dans le temps. La piste est à vous.
Parlez-vous français? Ah, chaque dimanche de 11h à 13h, Potpourri Show sur CUT 89,5 FM vous donne rendez-vous à un cocktail aux saveurs de la francophonie. Cette 27e édition du mois de la langue française est placée cette année sous le thème Place au talent. Comment se porte la charte de la langue française en 2014? De Montréal, Vancouver, Toronto, Paris, Dubaï, l'Afrique, les Antilles et les îles de l'océan Indien. Plusieurs invités seront au rendez-vous. Découvrez les enjeux, les projets et les défis qui animent la francophonie d'ici et d'ailleurs. Cinéma, immigration, diversité, littérature, droits de la personne, une francophonie en mouvement. Des témoignages chocs à vous faire réfléchir sur l'avenir de la langue française au Canada et dans le monde. Mois de mars 2014, mois de la langue française avec Potpourri Show et ses partenaires chaque dimanche de 11h à 13h. Faites-vous connaître, soyez parmi nos partenaires. Envoyez-nous vos coordonnées, vos idées à pot.pourri@sympatico.ca. De sincères remerciements au département d'études françaises de l'Université de Toronto, le journal Express de Toronto, Ciné Franco et le Centre Canada Méditerranée, Université York. Tout au long du mois de mars, on s'éclate, on s'expose sur CUT 89,5 FM avec Potpourri Show, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde.
Écoutez la planète chanter.
Cette chanson, les feuilles mortes, me rappellent à ton souvenir.
Adrabenakuza, dingi dong,
dingi dong, dong.
Écoutez la planète.
Vous écoutez Potpourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
Nos mots et nos chants jouent à la même heure.
Bienvenue, mesdames, messieurs, à Popori Show, votre magazine de la francophonie à la Radio Campus de l'Université de Toronto, CUT 89,5 FM, Francophonie sans frontières, dernière émission du mois de la francophonie. L'ingénieur du son, DJ, devra assister de Morgan Cott au microphone, Eric Kader, avec vous jusqu'à 13h sur www.cut.fm. Mes co-animatrices aujourd'hui, professeur Danielissa Sayek, directrice adjointe du département d'études françaises, Université de Toronto, accompagnée du professeur Anne-Josée Villeneuve, et de 11h à 13h, 2 heures de voyage dans le monde de la francophonie. Au programme en ce 20 mars, dernière émission donc clôturant le mois de la francophonie, faites-vous connaître, dernière chance pour vous de participer à notre quiz et courez la chance de gagner un billet pour deux de Ciné Franco ou un repas des Tropiques pour deux au restaurant La Créole. Téléphonez-nous tout au long de l'émission, jouez, gagnez en répondant à la question suivante. La communauté francophone de l'Ontario est la plus importante communauté francophone au Canada, hors Québec. Vrai ou faux? Je répète, la communauté francophone de l'Ontario est la plus importante communauté francophone au Canada, hors Québec. Vrai ou faux? 416-946-7000 ou pot.pourri@simpatico.ca ou encore hashtag popourichaud en un seul mot ou sur facebook.com/popourichaud. Parmi les sujets abordés aujourd'hui, pensez-vous que certaines écoles et certains enseignants soient homophobes? Nous attendons vos commentaires tout au long de cette émission. 416-946-7000 ou par email pot.pourri@simpatico.ca. Un étudiant gay francophone poursuit l'école secondaire catholique Sainte-Famille à Mississauga, un peu dans l'ouest de la ville de Toronto, pour discrimination. Christopher Carra se dit victime de divers gestes posés par l'école qui lui ont causé de l'humiliation, une perte d'estime de soi et de l'angoisse mentale. Nos invités aujourd'hui, Maître Jean-Alexandre Debouquet et Christopher Carras. Merci à la collaboration spéciale de Franco Queer, Action Positive, des organismes au service de la communauté LGBT à Toronto. Dossier francophonie, course à la mairie de Toronto. Pensez-vous que la francophonie devrait faire partie du débat? Que pensent les candidats et les candidates sur la communauté francophone de Toronto? Aimeriez-vous qu'on organise un débat de candidats à l'antenne? Comment se porte la francophonie ontarienne? Quelles sont les priorités de l'heure des franco-ontariens, franco-ontariennes? Pour nous éclairer sur ces questions, nous recevrons Denis Vaillancourt, président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. C'était la fête vendredi soir lors du lancement de la 17e édition de Ciné Franco, Festival international du film francophone, jusqu'au 6 avril 2014 au Cinéma Royal, 608 rue Collège Toronto. Plusieurs billets vous attendent ici. Téléphonez-nous, nous allons d'ailleurs rencontrer les réalisateurs de certains films tout au long de cette émission. Soyez des nôtres jusqu'à 13h. Vous pouvez aussi aller sur le site du Ciné Franco pour tout savoir, www.cinéfranco.ca. Et comment se porte la chanson française au Canada? Eh bien, hier soir, prix Juno à Winnipeg. Les grands gagnants du groupe montréalais Arcade Fire et Karim Ouellet pour le meilleur album francophone de l'année. Karim Ouellet, je vous rappelle, est un chanteur très, très, très québécois, originaire de Dakar, établi au Québec depuis 2002. Et la grande question qui hante beaucoup de pays membres de la communauté francophone en ce moment, qui succédera Abdou Diouf à Abdou Diouf? Je dis bien, qui succédera à Abdou Diouf, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie? Si vous connaissez la réponse, vous nous appelez 416 946 7000. Moi, j'ai la réponse pour vous. Et enfin, pour clôturer ce mois spécial francophone à l'antenne, nous vous proposons la question suivante. Quelle contribution la francophonie peut-elle apporter à un mouvement global de transformation du monde? Changer le monde en français, est-ce possible? Y a-t-il de l'entraide entre francophones? Nous attendons vos commentaires et messages à pot.pourri@simpatico.ca. Et à tous nos amis invités, sponsors, Ciné Franco, professeur Eddie Bouraoui, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Express de Toronto, Radio France Internationale,
Montréal. Chabichou, fine cheese and gourmet food. Et oui, restaurant Bistrot Sauvignon, restaurant La Créole, l'Assemblée de la Francophonie. Courez la chance de gagner un billet. Tout au long de cette émission, mesdames, messieurs, nous avons deux paires de billets de ciné franco et un repas des tropiques pour le restaurant La Créole, un peu dans l'ouest de la ville de Toronto. Téléphonez-nous. Morgane attend votre appel au 416-946-7000. La communauté francophone de l'Ontario est la plus importante communauté francophone au Canada hors Québec, vrai ou faux? Popourri Show, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde. Et oui, bonjour, cher professeur Daniel Issa-Sayeg et Madame de Villeneuve. De Villeneuve?
Non, j'ai pas de particules, malheureusement. Anne-Josée Villeneuve.
C'est Villeneuve. Parenté avec l'autre.
Du grand, département français.
Oui, parenté avec le grand coureur champion coureur de mai, non?
Non, on fait partie de deux lignées de Villeneuve complètement différentes à partir du 17e siècle.
Eh oui, ben bravo, bienvenue dans cette marmite de pot-pourri. C'est une marmite bien bouillie aujourd'hui. Comme vous voyez, nous avons des gens qui sont là. Est-ce qu'on peut les entendre? Est-ce qu'ils peuvent applaudir pour montrer aux auditeurs et aux téléspectateurs et aux auditeurs de sur le net que vous êtes là, bien vivant, il n'y a rien de caché. Applaudissements, s'il vous plaît. Waouh! Alors, je rappelle que tout au long de l'émission, je vais vous inviter à venir vous présenter, si vous voulez présenter des vœux à la communauté francophone, ou aussi peut-être répondre, poser des questions, s'il y a des commentaires de nos invités qui vous interpellent, que ce soit Christopher ou encore un membre de la communauté francophone qui parmi nos invités, eh ben vous venez prendre le micro à ma droite ici et vous vous présentez avec votre carte de visite. Votre état civil, on veut tout savoir. Professeur Issa Sayeg, je ne vous ai pas vu à la grande messe de Ciné Franco vendredi soir. Où étiez-vous?
Malheureusement, j'étais pas bien, alors je ne suis pas venue. Ouais.
Voilà. On n'a pas le droit de n'être pas bien pendant le mois de la francophonie.
Je sais bien, mais trop, c'est trop à un moment donné.
Alors, professeur Villeneuve, je pense que vous avez quand même un intérêt particulier à différentes formes, différentes sortes de francophonie, de la Picardie en Haïti, passant par le Québec. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, plusieurs œuvres, qu'on n'aura pas le temps nécessairement d'en débattre aujourd'hui, parce que vous voyez bien, la marmite est remplie.
Hein, elle va déborder.
Mais en deux mots, qu'est-ce que vous enseignez à l'Université de Toronto?
Alors, j'enseigne la linguistique, et particulièrement ma spécialité, c'est la sociolinguistique. Donc, l'étude du langage en lien avec la société, le sexe, l'âge, etc., la classe sociale. Donc,
vous passez au peigne fin, à la loupe, les différents aspects de notre vie, finalement.
Vous êtes sous observation.
Ah oui.
C'est un laboratoire en ébullition.
Alors, je sais que le débat risque de porter un peu polémique. Je vais peut-être un peu provoquer en disant, est-ce que nos écoles françaises, francophones, sont homophobes? Est-ce que les enseignants ou certains enseignants, mais j'ai bien dit certaines écoles et certains enseignants, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, sont, parce qu'il y a beaucoup d'études, beaucoup d'articles de journaux dans les nouvelles, c'est ce qu'on voit. Il y a ce harcèlement, que ce soit à travers l'Internet aujourd'hui, que ce soit parce que l'autre est différent de moi, et on sent même dans les écoles maternelles, hein, ça commence très très jeune, il y a des jeunes qui se font harceler juste parce qu'ils sont différents. Est-ce que vous, en tant qu'enseignante, professeur, est-ce que cela vous peine, vous agace? Est-ce que vous suivez un peu l'actualité? Comment est-ce que...
Écoutez, j'étais en train de corriger hier soir des copies d'étudiants qui m'ont remis leur rapport sur un stage qu'ils ont fait dans les écoles de Toronto. Et le sentiment que j'ai eu, et ça a été écrit noir sur blanc, c'est qu'il y a beaucoup d'abus dans les écoles, que ce soit l'autorité parentale, l'autorité de la commission, etc., qui restreignent beaucoup la liberté des enseignants. Donc des dérapages.
Donc il y a je comprends bien, il y a des
influences, oui,
qui veulent influencer
le professeur, l'école, ah, etc. Oui. Donc les dérapages ne m'étonnent pas dans ces conditions-là, parce que si c'est simplement vis-à-vis du français, l'enseignement du français dans les écoles, et je ne rapporterai pas les choses qui ont été dites, mais enfin. C'était un peu affligeant de lire ceci. au XXIe siècle encore et de voir l'attitude de certaines personnes vis-à-vis de tout ce qui est minoritaire en fait ou majoritaire, mais qui ne correspond pas à leur point de vue.
Malheureusement, donc ayant enseigné au secondaire dans la région de Montréal, au jour le jour, on voit que la différence, surtout à l'école secondaire, quand ils sont adolescents, c'est difficile d'être différent et de s'affirmer comme personne différente, que ce soit en termes de race, que ce soit en termes d'affirmation, d'orientation sexuelle. L'école secondaire est en soi très difficile à vivre.
Et est-ce que ces écoles ont des politiques qui reflètent les droits de la personne, par exemple? Ce sera très intéressant de voir. Je ne suis pas sûr que les parents qui nous écoutent, les gens qui nous écoutent en ce moment, y compris les enseignants, les professeurs, hein, je sais qu'il y en a beaucoup de certaines écoles francophones qui sont à l'écoute en ce moment et qui m'ont bien dit, fais très attention à ce que tu dises et ainsi que tes invités. C'est pour vous montrer comment le sujet est encore tabou, est encore délicat, mais ici, c'est le laboratoire des pensées, des philosophies, et heureusement, nous sommes à l'Université de Toronto qui nous donne cette
mission de l'université.
Exactement, exactement. Et d'ailleurs, si vous voyez, la salle est avec le drapeau de la Gay Pride. C'est un endroit où vous êtes là, messieurs, mesdames, de l'autre côté, dans la salle. Si vous regardez derrière vous, c'est un endroit, espace, réservé à la diversité sexuelle. Alors donc, nous sommes très fiers que l'Université de Toronto a signé un genre de convention, des politiques. On n'est pas supérieur ou parfait. Il y a toujours de l'amélioration à porter, n'est-ce pas? Mais au moins, à l'Université de Toronto, on a fait pas mal de pas et d'études aussi.
Le programme espace sécuritaire, donc Safe Space, est vraiment, vraiment très intéressant à l'université. Il faut vraiment que les jeunes, que les étudiants sachent qu'ils ont un endroit où ils peuvent aller se réfugier s'ils ne se sentent pas en sécurité. Donc, je pense que le programme est en expansion et le programme offre vraiment une opportunité pour les jeunes homosexuels.
En 1991, en réponse aux besoins de ses membres, la Société canadienne du SIDA a publié l'homophobie, l'hétérosexisme et le sida. Peu d'outils existaient alors pour soutenir ces organismes dans le combat contre l'homophobie et l'hétérosexisme dans la société canadienne et pour les aider à lutter efficacement contre le VIH-sida au palier communautaire. Donc il y a plusieurs documents, des études, ce sont vraiment des outils de travail, d'usage, courant dans le mouvement communautaire de lutte contre le VIH-SIDA au Canada et ailleurs. Et grâce à ces études, les groupes communautaires peuvent en bénéficier pour aider leurs membres, mais aussi la communauté dans son ensemble. En tant que guide informatique pour contrer l'homophobie dans le contexte de la lutte contre le VIH-SIDA, ce document a contribué à démentir des mythes et à rectifier des idées erronées. 12 ans plus tard, la société canadienne a grandement évolué. Les contextes légal et social de 1991 ne s'appliquent plus. Des affaires judiciaires et des changements législatifs à tous les paliers ont démontré que la majorité des Canadiens, des Canadiennes, considèrent à présent qu'il n'est pas acceptable d'exercer de la discrimination à l'égard d'une personne à cause de son orientation sexuelle. De fait, des sondages d'opinion indiquent qu'une majorité croissante de Canadiens et de Canadiennes rejettent la discrimination à travers le pays. Récemment, la Cour supérieure de l'Ontario a déclaré que la loi fédérale refusant un droit égal au mariage aux personnes de tout genre sexuel était inconstitutionnelle, je dis bien. Et depuis, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a levé la suspension d'un jugement semblable, le gouvernement fédéral n'a pas porté ses décisions en appel. Il prépare d'ailleurs une loi qui accordera le droit au mariage aux couples de même sexe. Donc, il est important de noter qu'étant donné les changements profonds des 3 dernières décennies, dans l'attitude des sciences sociales et dans une moindre mesure, mais avec une vaste portée dans la société en général, à l'égard des personnes gays, lesbiennes, bisexuelles et de leur vie, il y a encore beaucoup à étudier, à écrire sur le sujet. Où en est à ce jour le progrès réalisé dans les collectivités francophones, que ce soit en Ontario ou partout à travers le Canada, dans nos écoles, les universités et les milieux de travail sur la reconnaissance des droits des membres de la communauté GLBT? La francophonie et les droits de la personne, un étudiant gay francophone poursuit son école pour discrimination. Christopher Karas se dit victime de discrimination. Il est avec nous, avec son avocat, dans un instant.
Marrakech, alors on s'taire. Alors on s'taire. Alors on... Qui dit études dit travail, qui dit taf dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine et dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil. Alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. On danse, on danse et puis on danse, alors on danse. À Marrakech, alors on danse. Alors on danse. Alors, et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et cela zik ou les problèmes, bien la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête, mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu te bouches plus tes oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse.
Et oui, mesdames, messieurs, nous entendons actuellement celui qui fait tourner la tête de bien de francophones, que ce soit en Belgique, en France, dans les pays d'Afrique, même au Marrakech, où il est en ce moment. Et il sera à Montréal au mois de mai. C'est bien sûr le grand monsieur Stromae, que vous connaissez, n'est-ce pas?
Oui.
Très beau mélange, hein, entre la Belgique bien. Et... Rwanda, je pense.
Oui, c'est ce que vous aviez dit la semaine dernière.
Alors on chante, alors on danse. C'est la fin de cette édition, 27e édition de la francophonie, madame, monsieur. Et cela nous fait plaisir de conclure cette émission avec des gens de la communauté. Encore une fois, merci, merci mille fois d'être là en ce dimanche. Les gens qui nous écoutent sur Internet se posent toujours la question, comment se porte la francophonie à Toronto? Oui, nous sommes à Toronto et les gens sont bien vivants, debout et sont fiers de leur francophonie, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mes chers amis, hein? Alors, nous avons le plaisir, madame, monsieur, d'accueillir l'avocat qui travaille sur le cas de notre ami ici, Christopher. C'est monsieur De Bousquet. Merci beaucoup d'être là.
Merci.
Vous êtes avocat dans la région de Toronto. Vous avez travaillé, je pense, au procureur général.
Oui, c'est ça. J'ai eu plusieurs emplois dans le domaine des... organismes non lucratifs et pour le procureur général de l'Ontario.
Et vous avez fondé votre propre cabinet, la société professionnelle de Bousquet, après avoir donc travaillé à la direction des services juridiques du ministère du procureur général ainsi qu'auprès d'un organisme sans but lucratif de Toronto. Et vous dites que vous pratiquez le droit en français et en anglais.
Oui, c'est exact.
C'est bien. Vous êtes de la ville de Toronto?
Non, j'ai grandi à Montréal et j'ai fait mes études universitaires en partie au Manitoba, à l'Université de Saint-Boniface.
C'est bien.
Ainsi qu'aux États-Unis, à l'Université de Louisville. Et ensuite, je suis déménagé à Ottawa pour faire le droit, où j'ai fait deux diplômes en droit. Un de common law, un de droit civil.
Et je pense que dans l'Express de Toronto, on a parlé de vous il n'y a pas tellement longtemps, une très belle présentation. Vous avez votre cabinet donc et vous représentez aussi des sociétés commerciales, des individus ayant été victimes de fraude, de délits civils ou de violations de contrats. Mais ce qui m'interpelle et m'intéresse aussi chez vous, vous dites que vous êtes toujours prêt à aider les gens les plus vulnérables.
Oui, c'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle je suis devenu avocat. J'ai vu l'injustice dans la société et je me suis dit, bon, peut-être que je pourrais faire quelque chose. Alors, donc, je vais devenir avocat et défendre la veuve et l'orphelin. Et c'est pour ça que je défends Christopher aujourd'hui. En réalité, je représente environ 1% des applicants devant le tribunal des droits de la personne de l'Ontario pour la région de Toronto.
Bravo. Alors, merci d'être là encore une fois. Et tout au long de l'émission, donc, madame, monsieur, voilà, nous avons un atout très intéressant. Si vous avez des conseils à rechercher, mais toujours en lien avec l'émission, on ne bifurque pas. Christophe Carras, bonjour et merci d'être là.
Merci.
Oui. Alors, on t'a vu dans les journaux Extra Magazine, le Toronto Star, le Journal Express de Toronto, sur la toile. Beaucoup de gens t'envoient des messages d'appui. Il faut dire quand même que tout ça a démarré surtout dans la communauté anglophone. Or, tu fréquentes une école catholique de langue française, mais pourquoi cet intérêt de la part et ces liens avec la communauté anglophone?
C'est vrai que beaucoup de l'intérêt était en anglais, mais j'ai aussi été dans la communauté francophone du début. Quand j'ai allé sur Radio-Canada, j'étais sur la télé et j'étais aussi sur la radio. Mm-hmm. Alors, j'ai fait tout ce que je pouvais faire en français quand j'ai été demandé.
Alors, vous allez comprendre, nous ne sommes pas dans une cour de justice, mais je vais jouer quand même à l'avocat du diable. Et je pense que ton avocat est là pour défendre. Oui. Les gens peuvent se poser des questions. Si on est gay, on est lesbienne, pourquoi entrer dans une école catholique?
Ah, OK. Alors, mes parents m'ont choisi d'aller à une école catholique. Mm-hmm. Ils croyaient dans les valeurs de l'Église. Alors, moi, j'ai resté là parce que je croyais que c'était mon droit, juste comme n'importe qui, à rester dans cette école et avoir les mêmes opportunités que les autres. Et je crois que les droits queer et trans sont des droits humains et toute personne a le droit de se sentir en sécurité, aimée, acceptée, respectée. C'est pourquoi j'ai organisé un espace sécuritaire en vertu de la loi pour les écoles tolérantes. J'aimerais mieux dire les écoles acceptantes. Et quand j'ai été refusé le droit depuis plus d'un an et demi, je voulais faire quelque chose maintenant pour rendre les écoles de ma collectivité plus sûres. En tant que tel, j'ai jumelé avec JaresVision.org pour exécuter le Dare to Stand Out, le forum GSA. Le Canada est fier d'être un défenseur des droits humains sur la scène mondiale et encore les droits queer et trans sont souvent négligés au Canada. Les droits queer et trans sont punissables par la loi dans plus de 80 pays dans le monde aujourd'hui d'être simplement vous-même. J'ai récemment collaboré avec les activistes queer et trans de Toronto pour construire une campagne End Hate Laws. Vous pouvez nous rejoindre sur Twitter @EndHateLaws. Merci.
Alors, nous allons revenir sur ta plainte. Premièrement, peut-être ton avocat pourrait aussi répondre. Comment démarrer ce processus et pourquoi, comment vous vous êtes connus, comment s'est fait le lien? Il faut expliquer aux gens qui nous écoutent, qui peut-être vivent les mêmes situations, le processus de démarrage de plainte. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est vraiment discriminé parce que on est différent ou on est gay, queer ou trans ou homosexuel?
Bien, moi je suis assez pragmatique. Alors avant de dire qu'il y a eu discrimination, je veux voir des preuves ou du moins des circonstances, la preuve circonstance.
Parce que là vous avez déposé quand même une plainte à la Commission des droits de la personne de l'Ontario.
C'est le tribunal des droits de la personne de l'Ontario. Anciennement la commission, mais maintenant c'est le tribunal des droits de la personne. Alors beaucoup de gens parlent d'une poursuite. Mais en réalité, c'est une application en vertu de la loi sur les droits de la personne.
Alors, qu'est-ce que Christopher reproche à son école?
Bien, de la discrimination dans la provision de services, services éducatifs, en raison de son orientation sexuelle. Et un certain nombre de faits reprochés, ainsi qu'un certain élément de preuve. Bien, un de ses professeurs, durant son cours de sociologie, il parlait des différentes structures familiales. Alors, un étudiant, ce n'était pas Christopher, mais un étudiant a levé sa main et a dit « Parlons des structures familiales des familles gays. » Et le professeur a dit, bien, nous, on parle pas des familles gays, c'est pas des vraies structures familiales, c'est pas reconnu par notre école comme une structure familiale.
Oui.
Alors, ensuite, dans un autre cours, un autre professeur, professeur de religion, a dit aux étudiants, les gays ne devraient pas avoir le droit d'adopter des enfants. Alors, c'est assez discriminatoire. En
soi. Oui. Vous êtes au courant que là, c'est une école catholique avec ses balises, avec ses, sa philosophie, avec, je ne sais pas, professeur...
Qui change aussi, oui, qui oui. change. La position du pape François vraiment, est vraiment...
Et d'ailleurs, Barack Obama était avec le pape François cette année, cette semaine. Je ne sais pas s'ils ont parlé de ça, mais le pape François doit savoir que Barack Obama est ouvert au mariage du même sexe.
Et le pape François a ouvert la porte dans une direction qui ouvre... qui permet plus de tolérance également envers les personnes homosexuelles.
Bon, il y a plusieurs factions dans l'Église catholique. Je pense que là, ça devient sujet de débat. Il y a beaucoup de prêtres qui, par exemple, fréquentent ou même sont plus tolérants. Il y a certaines églises catholiques hein, qui sont plus tolérants face à la communauté gay. Et est-ce que... quelle a été la démarche dans l'école, Christopher, quand tu as vu ces gestes, tu as entendu ces histoires, parce qu'il y a même un livre, ça paraît, où le professeur voulait que tu...
C'est poison, oui. Le livre, c'était à propos d'un alcoolique, mm-hmm. Le père, qui avait plusieurs enfants, puis un des enfants, son nom est Patrick, puis il faisait un geste sexuel avec un autre homme. Puis quand le père est rentré dans la salle, il a dit que c'était abnormal, c'était pas naturel. Puis il a battu violemment. Et tout le long de l'histoire, jusqu'à la fin de l'histoire, tu crois que la seule façon que Patrick peut vraiment avoir le succès, c'est d'être dans la rue ou de vivre sans sa famille, de faire des activités criminelles et vendre de la drogue.
Ouais, alors, d'un point de vue légal, ce qui est discriminatoire avec le livre, c'est que ça... fait la promotion d'une vision des homosexuels en tant qu'individus qui sont socialement mal adaptés et qui sont proies à des comportements antisociaux comme le crime, la drogue, etc. Alors, un parent ou un enfant qui lirait ce livre-là dirait « Oh my God, je veux pas que mon enfant devienne gay ou je veux pas être gay moi-même parce que je vais devenir comme cet individu-là, Patrick, qui est... qui vit dans la rue et qui va toujours vivre dans la rue à commettre des petits crimes parce qu'il est gay.
Tu as réagi face à ce professeur?
Le professeur qui a pris le livre de poison, mm-hmm. C'était de notre curriculum. Alors, il n'avait pas le droit de l'enlever ou de nous donner une autre suggestion. Alors, quand j'ai commencé à lire ce livre-là et qu'on a lu la page 45 qui avait l'accident très violent, j'ai été très bousculé. Je voulais demander quelque chose, dire quelque chose. Alors, j'ai allé aux administrations et j'ai demandé de changer le livre, de l'enlever, d'avoir un autre livre avec une autre opinion.
Est-ce que je peux poser une question, oui. S'il te plaît? Est-ce que ce livre a été imposé par l'école ou ça fait partie du curriculum établi par la commission scolaire?
Je sais pas pour certains, mais c'était apparemment dans le curriculum, alors ils pouvaient pas l'enlever.
Oui, parce que ce serait quand même assez inquiétant si c'est mis dans le curriculum. Ça remonte plus loin, les préjugés viennent aussi des commissions scolaires, etc. Et de l'administration, et c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule, c'est quand même assez choquant de voir à l'heure actuelle des attitudes de ce genre. Et à ce moment-là, je ne sais pas si ça fera partie d'une de vos préoccupations aussi, d'aller voir les curriculums peut-être de plus près pour s'assurer que toutes sortes de clichés de ce genre négatif, en fait, ne soient pas perpétués chez nos jeunes.
Anachronique aussi.
Oui, anachronique également.
À vrai dire, c'est un des remèdes demandés au tribunal des droits de la personne, que le livre soit retiré du curriculum de toutes les écoles de la commission scolaire.
Bien.
Oui. Alors, il y a beaucoup d'autres éléments dans cette plainte. Nous allons aussi demander aux gens qui sont ici dans la salle, mais qui sont à la maison ou n'importe où à travers le monde, de nous envoyer un courriel s'ils ont des questions qu'ils veulent bien poser à Christopher ou encore à son avocat. C'est Monsieur Alexandre de Bousquet. Et nous sommes très heureux que vous soyez là. Le numéro de téléphone, madame, monsieur, a composé ici en direct à l'Université de Toronto, la radio de Pot-Pourri-Chaud, c'est UT 89,5 FM, c'est 86 946 7000 ou encore pot.pourri@sympatico.ca.
Parlez-vous français? Chaque dimanche de 11h à 13h, Pot-Pourri Show sur CUT 89,5 FM vous donne rendez-vous à un cocktail aux saveurs de la francophonie. Cette 27e édition du mois de la langue française est placée cette année sous le thème Place au talent. Comment se porte la charte de la langue française en 2014? De Montréal, Vancouver, Toronto, Paris, Dubaï, l'Afrique, les Antilles et les îles de l'océan Indien. Plusieurs invités seront au rendez-vous. Découvrez les enjeux, les projets et les défis qui animent la francophonie d'ici et d'ailleurs. Cinéma, immigration, diversité, littérature, droits de la personne, une francophonie en mouvement. Les témoignages choquent à vous faire réfléchir sur l'avenir de la langue française au Canada et dans le monde. Mois de mars 2014, mois de la langue française avec Pot-Pourri Show et ses partenaires chaque dimanche de 11h à 13h. Faites-vous connaître, soyez parmi nos partenaires. Envoyez-nous vos coordonnées, vos idées à pot.pourri@sympatico.ca. De sincères remerciements au département d'études françaises de l'Université de Toronto, le journal Express de Toronto, Cinéfranco et le Centre Canada Méditerranée Université York. Tout au long du mois de mars, on s'éclate, on s'expose sur CUT 89,5 FM avec Pot-Pourri Show, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde.
Diverse, unique, eclectic. Donate to CIUT 89.5 FM during the Spring Membership Drive, April 9th to the 15th. Keep your voice, your sound, and the sound of your city on the FM dial. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The sound of your city, right here, right now, every day. CIUT 89.5, Toronto.
Vous écoutez Pot-Pourri sur CUT 89,5 FM, le magazine de la francophonie en partenariat avec le département d'études françaises, Université de Toronto, le journal L'Express de Toronto et Radio France Internationale.
Et oui, mesdames, messieurs, re-bienvenue à Pot-Pourri Show, la dernière émission du mois de la francophonie. Et je suis en compagnie du professeur Danielle Sassayeg, qui est directrice adjointe du département d'études françaises, Université de Toronto, et accompagnée aujourd'hui du professeur Anne-Josée Villeneuve. Et oui, on me dit que le printemps sera des nôtres pour de vrai cette semaine, parce qu'il y a des gens encore dans l'autre bout du pays qui s'en arrache, comme on dit bien en français, à Toronto. Et oui, la neige continue, hein. C'est pas fini. Ça a été un hiver très rude. Oui.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Oui. Donc, je vais demander aux gens tout à l'heure, je vais passer avec un invité de Ciné Franco, mais en attendant, ça donnera peut-être le temps à nos invités de l'autre côté de la salle de préparer les questions. Et comme ça, si vous voulez intervenir pour sur le sujet avec Christopher ou son avocat, ou encore d'autres sujets qui touchent à la francophonie, préparez-vous. Vous avez qu'à me laisser savoir quand vous voulez intervenir. D'accord? Et dans un instant, donc, nous allons passer à un des réalisateurs de Ciné Franco, très très belle palette de films francophones, internationales.
J'ai mon programme ici.
Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est quoi votre coup de cœur?
Mon coup de cœur, je crois, c'est pour Catherine Deneuve quand même. Et j'irai voir le film certainement lundi soir, parce qu'à 70 ans, c'est une actrice qui a une très belle carrière et qui encore fait des films qui nous émeuvent tous.
Alors, nous allons rencontrer, mesdames, messieurs, dans un instant, Alain Minier, qui est réalisateur du film « Un petit gars » de Ménilmontant, qui se jouera au Cinéma Royal. Je vous rappelle, le Cinéma Royal est situé à 608 rue Collège, pas très loin de la rue Bathurst, ici même au centre-ville de Toronto. Donc, le 1er avril à 20h30, si ce film vous intéresse, vous nous appelez. Tout au long de l'émission, il y a une paire de billets qui vous attend. Monsieur Alain Minier, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, merci.
Oui, vous êtes où là en ce moment? Vous êtes à Toronto?
Je suis au Sheraton de Toronto, dans ma chambre.
Ah oui, oui.
Quelle chance.
Voilà, j'ai obéi aux ordres et aux consignes, je suis là.
Ah ben, merci beaucoup d'être
avec
là.
Avec grand plaisir.
Oui, cela me fait plaisir aussi. Bon, un homme qui sort de prison après avoir passé 15 ans derrière les barreaux, ça fait quand même un film très très dur, je pense, un film un peu policier, n'est-ce pas?
Bah ouais, c'est un peu l'art, mais un petit peu, enfin pas dans la véritable tradition française. Toute humilité conservée, je suis plus influencé par des gens comme Donald Goins, qui sont des auteurs américains. Voilà, c'est des gens qui parlent de la rue, enfin des voyous de la rue, en même temps de ce qui se passe dans les maisons avec leurs parents. Enfin voilà, moi je suis pas lié vraiment aux flics et aux voyous.
Mais quand même, ce film parle un peu de délinquance.
Il parle de délinquance, mais sur un aspect social, c'est-à-dire que évidemment il y a de la violence, évidemment il y a des coups de feu, évidemment il y a des gens qui se font mal, qui sont sans pitié les uns vis-à-vis des autres. Mais c'est aussi avec la résonance que ça a sur la famille, sur les parents, sur les voilà, c'est l'interaction sociale qui m'intéresse autant que l'action, voilà.
Alors, ce film va être projeté pour la première fois à Toronto. Qu'est-ce que vous avez à passer comme message pour ceux et celles qui sont encore hésitants? Quel est le message fort qu'ils vont recevoir en allant visionner ce film?
Le message fort, ben, c'est si ça les intéresse de voir un film où je mets en contraste une génération de voyous de 40, 50 ans face à des voyous d'aujourd'hui de 15 à 18 ans qui aujourd'hui ont des codes totalement différents, qui vont très vite, qui sont pas forcément sur des morales appliquées à celles qu'on connaît, qui ont fait notre éducation à nous, les gens de 40, 50 ans. Voilà, c'est cette espèce de conflit générationnel avec cette vitesse qui a pris la violence dans les rues parisiennes, où on pense que ce sont des quartiers préservés aujourd'hui. Ménilmontant est un quartier extrêmement pittoresque de Paris. Déjà rien que pour la photo, faut y aller, parce que vraiment là, Paris, le vieux Paris qui a connu Charles Trenet, qui a connu Piaf et tout ça, il est encore là, il est encore extrêmement vivant. Et c'est ce contraste avec cette jeunesse un petit peu débridée dans la violence face à des anciens voyous. Voilà, c'est ça un peu le message fort du film.
Or, vous dites aussi qu'il y a une certaine poésie dans tout ça.
Absolument, absolument. Ah. C'est la pierre du quartier qui a gardé cette poésie, ce côté enraciné, ce côté culturel, cette vieille culture française que nos cousins du Canada nous rappellent sans cesse qu'il ne faut pas la perdre. Donc voilà, ben, c'est une petite occasion d'aller en voir un échantillon là.
Alors je vous remercie beaucoup d'être là, j'espère que les gens seront nombreux. Vous êtes chez nous pendant quelques jours?
Oui, pendant 5 jours, jusqu'à mercredi.
Première visite à Toronto?
Pardon?
Première visite à Toronto?
Oui, j'ai fait beaucoup Montréal, de l'autre côté. Le Québec je connaissais, mais l'Ontario pas du tout.
Oui. Alors, ce que j'aimerais vous poser comme question, parce que c'est quand même le mois de la francophonie qu'on clôture ici, il y a plusieurs professeurs autour de la table, il y a même un avocat qui est avec nous, il y a des gens de la communauté, et c'est très intéressant de savoir comment vous, en tant que réalisateur, dans le monde du cinéma, comment voyez-vous l'avenir un peu de ce public francophone à travers le monde? Est-ce que les gens apprécient encore des films en français, d'après vous? Est-ce qu'il y a un avenir pour le cinéma?
Bah oui, enfin, le cinéma français, alors après, est-ce qu'il est vecteur d'un savoir-faire cinématographique ou est-ce qu'il est vecteur d'une culture proprement française? Je ne sais pas quel est le cinéma qui va perdurer. Le cinéma vecteur d'une culture française, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui la culture française si c'est relaté être dans la lignée directe des grands auteurs, de nos grands artistes, je suis pas sûr que ça intéresse énormément encore le monde entier, sauf les gens qui cherchent, sauf les étudiants spécifiques qui sont véritablement dirigés vers l'étude de notre culture. Mais en même temps, après, aujourd'hui le cinéma a aussi sa fonction spectacle. Là, il y a un savoir-faire de plus en plus aiguisé. Beaucoup de jeunes réalisateurs français sont de plus en plus demandés aux États-Unis parce que ils ont la French Touch, comme ils disent. Donc,
et les Québécois les Québécois font bonne figure. Les Québécois, les réalisateurs québécois font bonne figure à Hollywood.
Bien sûr, chez nous, les films, En général, les films québécois remplissent les salles chez nous.
Ouais. Alors, donc, vous avez un peu... Vous êtes quand même assez optimiste.
Moi, je suis optimiste parce que c'est l'affaire de chacun. Ouais. C'est-à-dire que c'est le regard qu'on porte sur notre société. Voilà, si on reste trop en arrière... moi, j'adore ma culture. Je revendique ma culture française à grand renfort de comme ça, parce que bon, enfin, je suis également enseignant, j'enseigne le cinéma et l'écriture scénaristique surtout partout en Europe, et voilà, c'est quelque chose que je véhicule beaucoup, l'idée de bien écrire, d'une belle langue et tout ça, c'est quelque chose qui me séduit beaucoup. Mais en même temps, je leur dis voilà, moi j'adore le spectacle, j'adore aussi la modernité, j'adore porter un regard un peu cru sur nos sociétés qui sont pas toujours des exemples de beauté, et voilà, j'essaye d'aller vers ces événements avec le plus de d'éthique possible, et puis de forme, de être de la forme.
Merci beaucoup Alain Minier, réalisateur du film Un petit gars de Ménil Montrant au Royal, Cinéma Royal, madame, monsieur, grâce à Ciné Franco. D'ailleurs, vous pouvez aller sur le site www.cinéfranco.com le 1er avril à 20h30, et j'espère que j'aurai l'occasion d'avoir une petite rencontre, à prendre un café avec vous cette semaine.
Voilà, merci beaucoup.
Passez une bonne journée, merci encore d'être là.
Et merci de votre accueil.
Au revoir
monsieur.
Et oui, madame, monsieur, nous revenons en studio avec la question de cette dernière émission. Et oui, du mois de la francophonie, c'est un peu triste, hein, de dire adieu, au revoir à la francophonie. On parle pas vraiment.
Ce n'est qu'un au revoir.
La question, est-ce que vous pensez que certaines écoles, certains enseignants sont homophobes? Surtout dans notre monde francophone. Vous nous téléphonez au 86 946 7000 et peut-être nous aurons une question des gens qui sont ici dans la salle avec nous au studio. Nous sommes à Hot House Studio, l'Université de Toronto. Madame, monsieur, c'est l'émission Popourri Show qui vous mène jusqu'au bout du monde. Et oui, mesdames, messieurs, nous avons une première question. Je pense que c'est quelqu'un qui était à l'émission la semaine dernière, n'est-ce pas?
Oui, c'était monsieur... un visage familier.
Ouais, monsieur Gilles.
Et une voix familière aussi.
Monsieur Gilles Marchildon, vous vous présentez, s'il vous plaît, pour les gens qui ne vous connaissent pas, peut-être?
Oui, alors, Gilles Marchildon, je suis ici comme citoyen engagé et concerné par la question du respect des droits humains. Évidemment, je suis très impliqué aussi au niveau de l'ACFO Toronto, Action Positive, et je suis ici avec d'autres membres du groupe Franco-Queer. Et j'ai une question pour Christopher. Évidemment, c'est très préoccupant de savoir qu'il y a une certaine, appelons ça une sclérose dans le milieu scolaire, dans certaines écoles, chez certains enseignants. Mais je serais curieux de savoir, Christopher, si... comment tu as vécu ça par rapport à tes collègues, les autres étudiants? Parce que, en tout cas, moi, j'ai beaucoup d'espoir qu'au niveau des jeunes, il y a peut-être beaucoup plus d'ouverture et, enfin, que la nouvelle génération va porter plus loin le respect fondamental des droits humains. Mais je serais curieux de savoir si, effectivement, c'est ce que tu as vécu. J'espère, en tout cas, qu'il y a eu de l'appui de la part de tes collègues étudiants. Est-ce que c'était le cas?
Pour te dire la vérité, j'ai toujours mes amis qui m'ont supporté, mais c'est surtout vrai que il y a eu des personnes qui se sont senties que ils pouvaient pas me supporter et trouvaient que ce que je faisais c'était vraiment juste pour promouvoir mon nom ou faire quelque chose de spécial de ce bord-là et ne comprenaient pas que il y avait eu de la discrimination et que j'essayais de mettre en place un espace sécuritaire pour tous les étudiants à mon école et à travers mon conseil puis ça me blesse beaucoup à savoir que il y a des jeunes qui ont pas compris c'était quoi le sujet de ce que j'essayais de faire puis j'espère que un jour ils vont comprendre. J'espère que c'est la même chose au public.
D'après un article que j'ai lu quelque part, parce qu'il y a vraiment ça pullule sur le net, mesdames, messieurs, c'est incroyable de voir le nombre d'articles d'appui au sujet de Christopher. Tu racontes, il y a eu une sortie à Ottawa, je pense, dans l'autobus où là où vous étiez, les professeurs vous avez séparé, vous voulez pas que d'autres étudiants couchent dans la même chambre avec toi. Parlez-nous un petit peu de cet incident.
On allait à Ottawa pour une cérémonie en avant du Parlement. Puis quand on est allé, il y avait des chambres qui ont été toutes organisées. Mm-hmm. Puis les jeunes qui étaient dans la chambre avec moi ne voulaient pas être dans la même chambre parce que c'était contre leur religion, c'était contre la façon où ils voyaient leurs opinions. Et ils croyaient que moi, j'étais même pas une personne. Puis ils voulaient pas être dans la même chambre. Alors ils ont demandé au professeur de changer et ils ont mis en place trois autres jeunes. Et même à ce point-là, j'ai allé sur ce voyage-là. Puis ces trois jeunes-là ont aussi pris en place de l'homophobie. C'est pas juste pour moi et c'est pas juste pour d'autres jeunes qui étaient dans la même place, dans le même espace que moi, qui n'étaient pas dans l'ouverture comme moi.
Est-ce que tout le monde est au courant que tu es gay? Est-ce que tu es le seul dans ton école qui est déclaré ouvertement gay? Comment ça se passe un peu dans le milieu scolaire aujourd'hui quand les gens sont gays, sont lesbiennes ou bisexuels? Je sais, des fois, on est un peu confus quand on est jeune, mais est-ce qu'il y a cette liberté de s'annoncer comme ça, s'afficher publiquement à l'école?
D'après moi, je suis le seul jeune dans mon école qui s'affirme en étant queer ou gay ou comment tu veux m'appeler.
Il y a personne d'autre qui est gay dans ton école.
On a d'autres jeunes qui ont d'autres orientations sexuelles, mais d'après eux, ils s'affirment pas. Ils commencent à comprendre où ils se placent.
Alors pourquoi toi, Christopher, tu as eu cette audace de te déclarer ouvertement? Tu savais un peu les conséquences que tu allais subir, n'est-ce pas? Parce que c'est quand même une école catholique.
Je pense que tout le monde a le droit de s'affirmer dans son identité en étant n'importe quelle orientation sexuelle. Vous avez droit à être vous-même et personne n'a le droit de changer ou de dire quelque chose à ce sujet-là.
Oui. Alors, peut-être ton avocat veut répondre brièvement avant qu'on passe à une autre question.
Bien, le taux d'homosexualité au Canada, c'est environ 10%. Alors, c'est sûr qu'il y a d'autres étudiants homosexuels à l'école de Christopher. De là à dire qu'il y en a d'autres qui sont prêts à aller à la radio en disant « Oui, je suis gay. Oui, j'ai été victime de discrimination. » Et je vais aller au tribunal des droits de la personne et je vais revendiquer mes droits et demander réparation. Alors ça, c'est une étape de plus. Alors,
je pense que le fait d'être pionnier, ça prend des pionniers pour toutes les sortes de discriminations, que ce soit la discrimination raciale dans les années 60. Il y a toujours une première personne et de penser, est-ce qu'on est la seule personne gay? Certainement que non, mais est-ce qu'on est la seule personne qui veut s'afficher? L'homosexualité, c'est quelque chose qui est invisible, contrairement à la race, par exemple. Donc, de s'afficher comme noir, on n'a pas le choix. On le porte sur son visage 365 jours par année.
Oui, mais Christopher, en plus de s'afficher, il a été une étape plus loin. Il a intenté des procédures juridiques. Alors, ça prend beaucoup de courage.
Nous avons une autre question, madame, monsieur. Vous pouvez aussi nous envoyer des questions à pot.pourri@sympathico.ca ou encore téléphoner. Morgane attend votre appel. Nous sommes au 86-946-7000. Hot House, Popourri Show vous attend. Oui, votre nom est...
Mon nom, c'est Zach. Oui. Donc, je suis militant activiste à Franco-Queer, comme beaucoup de mes camarades ici. Donc,
merci beaucoup d'être là.
Pour promouvoir donc un peu la culture LGBT francophone en Ontario. Sur ma question, c'est que j'ai rencontré pas mal de personnes, étudiants, notamment étudiants étrangers, qui arrivent ici à Toronto, qui font les anglais seconde langue, et qui sont un peu confrontés à la même chose, qui m'en font part. dans leur professeur qui font vraiment des remarques homophobes. Et parfois, ils savent pas comment faire. Donc, la question, c'est vrai que je me dis, mais comment? Parce qu'ils peuvent pas prendre un avocat, c'est trop difficile, c'est trop cher, ils paniquent, ils sont étrangers.
D'ailleurs, je t'ai proposé la question plus tard à Christopher. Ça doit coûter une fortune.
Oui, tout ça. Oui. Comment, je finis la question. Comment, excusez-moi. Comment on fait lorsqu'on peut pas prendre un avocat pour s'orienter, pour aller voir vers les bonnes ressources, les bonnes personnes? Les gens sont complètement démunis par rapport à ça.
En effet. Oui.
Christopher, est-ce que tu me permets de discloser des secrets professionnels? Alors, à vrai dire, pour un individu comme Christopher, c'est clair qu'il a été victime de discrimination. Il a des preuves matérielles, il a des témoins. Alors, il ne peut pas perdre. Alors, ce serait difficile pour moi de perdre.
D'ailleurs, pour le tribunal d'avoir accepté votre déposition, ça veut dire que...
C'était ce qu'on dit en anglais, un slam dunk.
Voilà.
Alors, pour moi, je devrais faire des efforts énormes pour aller au tribunal et perdre la cause de Christopher. Alors, je m'en fais pas trop au niveau de la rémunération. Il me paiera pas si il gagne, mais quand il gagnera. Mm-hmm. Un pourcentage des gains de la cause. Ça. Alors, pour les gens à la radio qui se disent « Ah, j'ai été victime de discrimination, j'ai de la preuve, j'ai des courriels ou j'ai des témoins, mais ah, si seulement je pouvais engager un avocat. » Mais les gens qui ont une vraie cause, où ils ont souffert de l'humiliation, de la détresse émotionnelle ou même une perte de revenus, particulièrement pour les gens qui se sont fait renvoyer d'un emploi ou qui ont donc sont vus refuser une embauche en raison de leur orientation sexuelle, handicap, etc. Alors, les gens qui ont une bonne cause, je les prends comme ça et ils me paient quand ils gagnent.
Alors, pour faire référence à la question que nous avons entendue, ça c'est très intéressant aussi pour les gens qui n'ont pas ce courage pour aller, surtout les nouveaux arrivants qui démarrent une vie ici au Canada, à Toronto, et qui n'ont pas toujours les moyens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Où aller chercher de l'aide?
Ce serait peut-être le bon moment pour monsieur d'indiquer ses références, ses coordonnées pour que les jeunes puissent le contacter éventuellement. Mmh. Mmh.
Oui, mon numéro de téléphone est le 647-620-6492. J'ai un site web, je suis partout sur Google. Alors, si vous recherchez De Bousquet, avocat, Jean-Alexandre De Bousquet, c'est très facile de me trouver. Je suis sur LinkedIn, Facebook, tous les médias sociaux.
Et récemment, c'était dans le journal L'Express de Toronto. Oui. Que les gens peuvent. Alors, je pense que nous avons une autre question avant qu'on passe. On a du temps. Rapidement, hein, s'il vous plaît. Alors, vous vous présentez, s'il vous plaît.
Bonjour, je suis Alexandre Brassard, politologue au Collège Clendon. Je suis très inspiré par la détermination et le courage de Christopher. Et j'aimerais poser une question pour mettre les choses dans un contexte encore plus large. Cette forme de discrimination dans les écoles religieuses sont, d'une certaine façon, financées par l'État. On parle d'écoles ici qui reçoivent des fonds publics. Comme contribuable, je contribue à ce qui se passe en ce moment. Est-ce que ça ne devrait pas aussi nous questionner sur le financement public des écoles catholiques en Ontario?
Je pense que ça devrait être pour les gens d'avoir un débat aux prochaines élections. Si le gouvernement devrait financer les écoles religieuses, nous protégeons fondamentalement le droit de la liberté et de la conscience. Et je crois que nous devrions être capables d'avoir un débat à ce que si on devrait donner les fonds aussi aux écoles d'autres consciences ou d'autres religions. Donc, nous donnons des fonds exclusivement aux églises catholiques.
Ça, c'est un débat, je pense, qui fait rage un peu depuis plusieurs années, un peu partout au Canada, n'est-ce pas? Et là, il y a deux semaines de cela, il y a eu un rapport quand même très intéressant. Il y a des données, mesdames, messieurs, qui existent. Ça fait vraiment froid aux yeux. En tout cas, moi, j'ai eu vraiment une frayeur parce qu'on nous dit que d'ici 20 ans, il n'y aura pas assez d'élèves dans nos écoles. Il y a même des écoles actuellement, au moment où on se parle, qui sont fermées, mais qui sont payés par l'État parce qu'on doit les chauffer, on doit garder l'électricité et certains services administratifs. Or, il n'y a pas d'élèves dans ces écoles-là, y compris des écoles francophones. Donc, c'est un gaspillage d'argent d'État, il me semble. Parce que, bon, alors, revenons sur la question des écoles catholiques. Nous ne sommes pas là pour faire le procès des conseils scolaires catholiques, mais par contre, c'est une question qui est soulevée souvent, hein, par des politiciens aussi, il faut bien le dire, par la communauté en général. Est-ce qu'il faut préserver, garder et avoir des fonds directement liés à dédiés à des écoles catholiques, des écoles religieuses en Ontario?
Ça, c'est la grande question. Et je pense qu'au-delà de la question, Au-delà de la question financière, il y a également une question d'évolution des valeurs catholiques et de refléter la réalité d'aujourd'hui. On peut pas enseigner dans des écoles catholiques des valeurs catholiques de la même façon qu'on le faisait dans les années 50.
Oui. On revient, madame, monsieur, dans un instant. Vous pouvez encore toujours nous envoyer vos messages ou encore préparer vos questions. Vous écoutez Potpourri Show. Nous sommes avec vous jusqu'à 13 heures et mes invités sont toujours ici avec nous et répondront à vos questions.
Equalizing the story. Punk. Probably hardcore. Sunday night. Go! Starting at 10 on CIUT.
The Exercise. Diverse, unique, eclectic. Donate to CIUT 89.5 FM during the Spring Membership Drive, April 9th to the 15th. Keep your voice, your sound, and the sound of your city on the FM dial. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
Right here, right now, every day. CIUT 89.5, the sound of your city.
Et oui, mesdames, messieurs, vous écoutez Potpourri Show, et aujourd'hui, nous vous posons la question suivante. Pensez-vous que certaines écoles et certains enseignants soient homophobes? Nous attendons vos commentaires tout au long de l'émission. Vous pouvez aussi nous téléphoner au 86-946-7000. Un étudiant gay francophone poursuit l'école secondaire catholique Sainte-Famille à Mississauga pour discrimination. Son nom est Christopher Carras. Il est ici aujourd'hui avec son avocat, Monsieur Alexandre, Maître Alexandre de Bousquet. Merci beaucoup d'être des nôtres. Je pense que nous avons une autre question. Venez, approchez-vous, s'il vous plaît. Vous vous présentez, monsieur.
Oui, bonjour. Je suis Jean-Roch Boutin, un des fondateurs parmi un groupe de franco-queer. Et je veux d'abord exprimer tout mon appréciation pour Christopher et Jean-Alexandre pour l'effort qu'ils font pour faire avancer la cause des droits humains des gays. Même chez nous, ici à Toronto, on croirait qu'on est très loin en avance du reste du monde, mais quand on regarde la réalité, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Alors, mais dans la vie de tous les jours, Christopher, est-ce que tu reçois de l'appui? Quels sont les gens qui t'appuient? Est-ce que tu reçois l'appui des professeurs, de certains professeurs peut-être discrètement parce qu'ils peuvent pas trop s'afficher? Est-ce que tu reçois des appuis de d'autres groupes communautaires? Et aussi, d'où vient l'énergie, la force et le courage que tu mets pour cette cause, pour faire avancer les droits des gays et des lesbiennes, des bisexuels et des gens en questionnement, parce que j'avoue que quand on est jeune, on est plus en questionnement parce qu'on regarde l'avenir et on sent des tendances, des pulsions, mais des fois c'est encore pas très établi. Alors comment tu, d'où vient ce courage et cette force de continuer et d'affronter l'adversité comme ça?
J'ai beaucoup de support sur les médias sociaux. J'ai beaucoup de support de grands organismes non gouvernementaux, aussi des non-profits, des grandes entreprises, les unions. Alors, j'ai beaucoup de support des gens et dans la communauté. Mais je pense que j'ai trouvé le courage en étant un jeune qui a voulu faire une différence et j'ai vraiment voulu avoir un espace sécuritaire pour être moi-même, mais aussi donner l'opportunité aux autres jeunes d'avoir la même opportunité que moi-même. Puis je pense que ceci devrait être quelque chose dans toutes nos écoles. Ça devrait pas être seulement dans mon école, ça devrait pas être seulement dans mon conseil, ça devrait être dans tous les conseils de tout le Canada.
Quelle est la réaction de tes parents?
C'était ma prochaine question.
Alors, j'ai sorti du placard, si tu veux dire ça, à l'âge de 15 ans. C'était très difficile, mais finalement, quand j'ai sorti, j'ai travaillé avec eux. J'ai vraiment pris le temps de comprendre c'était quoi qui était difficile pour eux à comprendre, mais aussi ce qui était difficile à comprendre pour moi-même. Puis en faisant cela, on est à un point où j'ai vraiment le support de deux parents, donc on voit pas très souvent. Plusieurs personnes ont la difficulté avec la mère ou avec le père. Alors pour moi, c'est vraiment important pour avoir le support de toute la famille.
Tu as des frères, des sœurs?
Oui, j'ai un petit frère. Ouais.
Parce que ça donne quand même une visibilité que peut-être tes parents ne cherchent pas nécessairement.
Cherchent pas
d'être si populaire maintenant dans les médias, les réseaux sociaux, le nom de la famille. Est-ce qu'ils reçoivent des appels? Quelle est la réaction de la famille, des voisins?
On a fait vraiment clair que ceci, c'était pour moi-même. Mmh. Ça, c'était quelque chose que j'ai dû battre sur mon temps à moi, et c'est pas quelque chose que la famille doit battre, mais on se tient ensemble et on comprend c'est quoi qu'on veut s'admettre, mais j'ai vraiment eu beaucoup de support de plusieurs personnes.
D'autres questions avant de terminer cette phase, mesdames?
Non, bon courage et
merci.
Oui.
Bravo.
On revient dans un instant, madame, monsieur, et je vous rappelle que nous avons une autre question. On va passer à une autre question tout à l'heure. On y va avec une pièce musicale, et je vous rappelle aussi comment se porte la francophonie en Ontario, quelles sont les priorités des franco-ontariens et des franco-ontariennes. Nous allons recevoir un invité, et le président de cette assemblée de la francophonie de l'Ontario. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous saviez qu'il y avait une assemblée de la francophonie en Ontario? On en parle avec son président dans un instant. Mais rapidement, je pense qu'on passe à une question rapide. S'il vous plaît, vous vous présentez.
Bonjour, je suis Mohamed. Mm-hmm. Ce n'est pas une question, mais c'est plutôt une solidarité. Mm-hmm. Je suis francophone, nouvel arrivant ici à Toronto. Mm-hmm. Et puis, je me sens tellement très indigné contre ce qui arrive à M. Carras. J'ai tué à mon soutien. Et pour rappel, je suis de confession musulmane.
Oui.
Merci.
Merci beaucoup d'être là. Le numéro à composer, madame, monsieur, voilà, si vous avez des témoignages d'appui à Christopher, à son avocat, vous nous appelez au 86-946-7000. Popourri chaud. Et oui, madame, messieurs, on va s'aimer, on va danser. C'est le thème un peu de cette émission, dernière émission de la francophonie. Vous pouvez aussi vous joindre à nous tout au long de l'année. Et si vous voulez nous appuyer lors de notre campagne d'adhésion, eh ben, faites-le. Merci encore à tous ceux et celles qui nous ont déjà donné des cadeaux. Et je vous rappelle que grâce à nos sponsors, nous allons faire des tirages tout au long du mois pour remercier tous ceux et celles, surtout les nouveaux membres. On veut aller chercher des nouveaux jeunes. Est-ce que les jeunes écoutent de la radio, Christopher, dans ton école? Qu'est-ce que vous écoutez comme émission? Quelle est votre émission de radio préférée? Quel est votre feuilleton à la télé préférée? Où vous regardez-vous des émissions américaines?
Ben, pour moi et la famille, on joue avec le petit bouton jusqu'à ce qu'on a une bonne chanson, puis on la
Et c'est quoi la bonne chanson?
Ça peut être n'importe quoi.
Non, moi je veux savoir c'est quoi le titre de la bonne chanson. Non, mais c'est la grande question qu'on se pose. Maître, vous qui êtes là, vous parlez très bien français, vous êtes bilingue. C'est très important de parler plus que deux langues, même d'être trilingue, n'est-ce pas, aujourd'hui, espagnol, français, anglais ou que sais-je. Mais c'est un défi, il faut bien le dire, pour beaucoup de jeunes. s'ils ne pratiquent pas le français, ils ne regardent pas les télé, la télé, ils vont pas au cinéma pour voir des films en français, ils écoutent pas de la musique, des entrevues, comme par exemple aujourd'hui, est-ce que tes amis francophones sont là? Est-ce qu'ils t'écoutent?
J'espère. mais je fais un effort quand je peux. C'est toujours important pour moi de pratiquer mon français.
Comment se porte la francophonie ontarienne? Quelles sont les priorités de l'heure des franco-ontariens? Avant de passer à mon invité, je vais tourner vers vous, dans la salle aussi. Est-ce que c'est une francophonie qui est en décomposition? Est-ce que c'est une francophonie gnan 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 gnan, comme on a dit la semaine dernière? Il y en a qui disent, moi j'ai la francophonie à l'estomac. Il y a même un livre qui est sorti avec ce titre du professeur Eddy Bouraoui. Et certains trouvent que c'est devenu tellement lourde comme administration que finalement on est en train de perdre l'entraide, la communauté, de voir ce qu'on a en commun. Vous, professeur, dans vos universités, là, est-ce que c'est vivant, cette francophonie? Est-ce que les gens sont friands de cette francophonie?
Ben, j'enseigne en ce moment un cours sur la francophonie nord-américaine. Mmh. Donc, quand on a parlé du français en Ontario, on s'est concentré sur les communautés traditionnelles franco-ontariennes qui sont venues du Québec, mais cette francophonie, surtout à Toronto, est vraiment en expansion et en renouvellement. La nouvelle francophonie, c'est pas nécessairement des gens qui étaient originaires du Québec. Il y a plusieurs immigrants francophones qui renouvellent la francophonie et qui renouvellent l'intérêt.
Mais quand on fait des spectacles, je m'excuse, des fois les salles sont pleines, il y a d'autres fois les salles sont à laisser à désirer. Par contre, Lara Fabian était à Toronto il y a quelques mois. Je suis allé à son spectacle parce que je voulais aller voir combien de têtes francophones que j'étais pour aller voir, rencontrer. Je suis allé comme un espion déguisé. Eh bien, à ma grande surprise, 90% étaient des Russes. Comment expliquer? Ça parlait russe, de gauche à droite, devant, derrière. Et ils applaudissaient, ils entonnaient les chansons de... Oui, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Je pensais comme si j'étais dans un autre monde, sur une autre planète, au centre-ville de Toronto.
La belle Lara est en retour.
Non, mais les Russes.
Mais vous savez, il y a beaucoup de chanteurs français, en tous les cas, qui vont en Russie. Alors que, par exemple, Patricia Cass fait souvent des spectacles en Russie. Peut-être qu'il y a de la part des Russes un goût prononcé pour la chanson francophone en général, et pourquoi pas, si c'est eux qui peuvent promouvoir la chanson française ou francophone,
tant mieux.
Et ça prend tout.
Oui. De l'autre côté, est-ce que vous avez espoir à la francophonie, oui ou non? Est-ce qu'on peut... Oui. Nous sommes en direct. Park House, madame, monsieur, le numéro à composer, c'est le 416-946-7000. Comment se porte la francophonie ontarienne? Quelles sont les priorités de l'heure des franco-ontariens? Pour nous éclairer sur ces questions, nous recevons dans un instant Denis Vaillancourt, président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Monsieur Denis Vaillancourt, bonjour.
Bonjour.
Bon mois de la francophonie. On vous a pas tellement vu. Oui, vous avez envoyé des messages, des communiqués. Merci beaucoup d'ailleurs pour vos vœux. Mais on vous a pas tellement vu à Toronto, là. Il y a beaucoup de francophones qui sont là et qui sont avides de savoir votre vision sur cette francophonie ontarienne en 2014, monsieur Vaillancourt.
Bien évidemment, je dois vous dire que j'étais à Toronto à deux reprises pendant le mois de la francophonie, mais dans des fonctions très, très, très importantes à mon sens. C'était des fonctions de démarchage pour la francophonie. Entre autres, j'ai participé à un forum sur les services de santé en français qui réunissait toutes les entités de planification de l'Ontario et les réseaux de santé en français. Et je suis dans une autre visite, je rencontrais les trois partis politiques sur la question de notre collège d'Alfred, qui est une institution franco-ontarienne qui date depuis longtemps.
Vous avez pas
et je me rends à Toronto assez souvent, donc... Ouais.
Vous nous laisserez savoir, peut-être on pourrait vous inviter à prendre un café ou... manger une petite poutine quelque part.
Ça me fera plaisir. Moi.
Écoutez, merci beaucoup d'être là. C'est sûr, il y a eu beaucoup de changements, de transformations. C'était l'ACFO, l'Association canadienne française de l'Ontario. Il y a eu des débats interminables. Est-ce qu'on vient à Toronto comme siège social? Est-ce qu'on reste à Ottawa? Est-ce qu'on va à Sudbury? Est-ce qu'on va à North Bay? Bon, finalement, vous êtes maintenant rétabli à Ottawa, n'est-ce pas? C'est là votre siège social.
Oui, le siège social est bientôt.
Et le nom a changé. Maintenant, c'est l'Assemblée, mon Assemblée de la francophonie. Quel beau nom. Mais pour les gens, monsieur, madame, tout le monde, vous savez, il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Il y a aussi beaucoup de Français qui sont ici maintenant à Toronto, mais aussi beaucoup de franco-ontariens hein, qui connaissent encore mal le pourquoi, pour qui cette Assemblée de la francophonie. Parlez-nous un petit peu des grands, peut-être, le schéma même et votre parcours de cette Assemblée, la création de l'Assemblée de la francophonie et peut-être les grandes lignes de vos politiques.
Bien, écoutez, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario prend ses origines et sa source en 1910, effectivement, alors que les francophones de l'Ontario se rassemblaient pour combattre littéralement un règlement qui voulait justement faire disparaître la langue française et empêcher l'enseignement de la langue dans les écoles publiques de l'Ontario. Et c'est en 1910 que environ 1000 francophones des quatre coins de la province se sont rendus à Ottawa et ils ont créé l'ACFEO, c'est-à-dire l'Association canadienne française pour l'éducation en Ontario. Et c'est cette association-là qui a travaillé à abroger le règlement 17 pour effectivement permettre l'enseignement du français, ce qui nous a donné dans les années 50-60 des écoles bilingues et depuis les années 70 des écoles de langue française au niveau élémentaire et secondaire. Et forcément, cet ACFEO qui a milité au tout début de son mandat pour l'éducation en français s'est transformé en l'Association canadienne française de l'Ontario. Parce qu'on a réalisé que la francophonie ne se vivait pas seulement dans les écoles. Il y avait une vie communautaire, une vie à l'époque paroissiale ou une vie autour de centres culturels. Et on a commencé, l'ACFO devenu l'ACFO a commencé à faire des démarches avec les diverses collectivités, les diverses communautés un peu partout dans l'Ontario pour prendre sa place, pour créer des centres culturels. Y insérer des agents de développement justement pour bâtir et pour peut-être faire vibrer cette vitalité franco-ontarienne, faire voir la communauté et encourager la communauté à s'affirmer. Et on a vu de ça la création de centres culturels, évidemment l'élargissement des écoles de langue française et toutes sortes de signes et de regroupements.
C'est devenu aussi un outil très politique.
Oui, ben c'est devenu politique, évidemment, au fil des ans, parce qu'on voulait agrandir l'espace franco-ontarien et on voulait assurer la reconnaissance des franco-ontariens et de leur langue. Et dans les années 60-70, on a milité pour les écoles, et par la suite, on a milité pour assurer des services en français de la part de l'appareil gouvernemental provincial. Donc, on a eu la loi 8 sur les services en français dans les années 80.
En Ontario, oui.
En Ontario.
Et aussi, il faut dire qu'au niveau de l'aspect juridique, hein, qui relève aussi du gouvernement fédéral et provincial, c'est très intéressant de voir que les gens maintenant peuvent avoir accès à des services juridiques dans leur langue. Hein.
Absolument. Alors, ouais. Ce sont des pas, et c'est pour ça que l'ACFO est devenu, a été le moteur et le rassembleur à l'époque, pour militer en faveur de ces différents droits et pour améliorer les droits garantis.
C'est et pour terminer, j'aimerais beaucoup qu'on fasse aussi le lien. Vous savez, nous sommes dans un laboratoire des peuples, hein, ici à Toronto.
Oui.
Et dans les années 80, vous vous souvenez, il y a eu quand même un grand débat sur la place des nouveaux arrivants au sein de l'ACFO. Je me souviendrai toujours de ça. Et c'était pas facile parce que ça démontrait que les statistiques parlaient d'eux-mêmes, que la communauté franco-ontarienne ne pouvait pas survivre dans les écoles ou ailleurs pour garder ses services sans s'allier à des nouveaux immigrants francophones qui militent aussi hein, pour le français à leur façon. Et donc, est-ce que ce débat s'est apaisé maintenant? Il y a une plus grande reconnaissance et un reflet des diversités au sein de l'association, votre association maintenant?
Oui, bien écoutez, l'ACFO, qui est devenu en 2005 l'AFO, l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario, évidemment, ça a été un effort de regrouper tous les groupes franco-ontariens, qu'ils soient d'origine francophone ou canadienne ou qu'ils soient de l'extérieur. Et on a assuré, justement, dans la structure de gouvernance, la présence des nouvelles communautés. Et on a encouragé, de part et d'autre, la formation de groupes communautaires qui regroupaient les nouveaux arrivants. Et aujourd'hui, bien, on a une union culturelle, une union provinciale de minorités raciales ethnoculturelles francophones avec qui on collabore étroitement. Et la francophonie s'est donnée, l'Assemblée, du moins, de la francophonie de l'Ontario, est très consciente que l'avenir et la survie, pour ne pas dire la survie, ou l'épanouissement de la francophonie ontarienne dépend de notre capacité d'accueillir et d'intégrer et d'assurer que les nouveaux arrivants...
Et leur donner aussi du pouvoir, parce que c'est bien beau de les avoir comme des marionnettes autour de la table, mais est-ce que ces gens ont du pouvoir, parce qu'ils ont des talents, ils ont une façon de penser, une façon de voir les choses, ça c'est un autre débat qu'on pourrait voir, parce que c'est ce qu'on entend, hein, souvent que les gens sont associés à votre association, mais ils sont là pour faire bonne figure, comme des marionnettes autour de la table.
Je prends un petit peu exception à votre commentaire, parce que la structure avec laquelle je fonctionne depuis je suis à ma quatrième année à la présidence, et à mon sens, tout francophone, tout parlant français ou franco-ontarien a sa juste place dans les secteurs, dans les regroupements, et a tous les moyens de faire valoir les besoins, puisque nous cherchons à encourager la vie en français, l'épanouissement et la prise de place dans la francophonie. Et nous travaillons comme communauté avec tous les éléments. C'est sûr que si on retourne 30 ans en arrière, le phénomène des nouveaux arrivants francophones était beaucoup moindre. Et aujourd'hui, il y a une prise de conscience, voire une prise en charge de ce phénomène pour se dire, et on met beaucoup d'énergie à mobiliser les instances gouvernementales pour être au premier plan de l'accueil, pour s'assurer s'assurer que les nouveaux arrivants francophones reconnaissent qu'il y a des communautés, qu'ils peuvent s'y retrouver aussi rapidement que possible.
Vous êtes à la radio de CUT 89,5 FM et mon invité aujourd'hui, madame, monsieur, nous sommes vraiment très chanceux de l'avoir, pour la première fois d'ailleurs, hein? Oui. Monsieur Denis Vaillancourt, qui est président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, et mes co-animatrices, professeur Danielle Issa-Sayek, directrice adjointe du département d'études françaises, ainsi que professeur Anne-Josée Villeneuve, qui est sociolinguiste, n'est-ce pas, à l'Université de Toronto. Merci d'être là. Nous avons une question, parce que nous avons plusieurs personnes aujourd'hui qui se sont déplacés pour venir assister à l'émission, et ce monsieur va se présenter, va vous poser une question, monsieur Vaillancourt, dans un instant.
D'accord. Alors bonjour Denis ou monsieur Vaillancourt à la radio, on devrait être plus formel, je suppose. Gilles Marchudon, je suis président de l'ACFO Toronto et j'ai eu souvent l'occasion de te croiser et puis aussi d'entendre ta présentation sur le plan stratégique communautaire, et j'aimerais ça que tu partages avec l'auditoire de l'émission Popoli et nous qui sommes rassemblés ici, la tendance statistique que tu cites lorsque tu présentes le plan stratégique communautaire en parlant de la répartition de la francophonie ontarienne et la tendance qui s'annonce pour l'avenir. Je pense que ce serait intéressant d'entendre ça, surtout pour nous ici à Toronto.
Merci, M. Machildon, et ça me fait plaisir d'entendre votre question. Et en effet, quand on parle du plan stratégique communautaire, on fait toujours l'état de la démographie franco-ontarienne. Et pour dire aux participants de ces rencontres-là que traditionnellement, on trouvait le gros bassin de la francophonie dans l'Est ontarien, et on en retrouve un autre bassin important dans le Nord-Est ontarien, et un peu moins important dans le Sud-Ouest, et encore un petit peu moins important dans le Nord-Ouest. Pour ce qui est du centre de l'Ontario et même centre et sud-ouest inclusivement. Et je dis toujours à l'exemple de Bernard de Rome, si la tendance se maintient, il faut reconnaître d'abord que la francophonie ontarienne a connu une croissance. D'ailleurs, la francophonie, les franco-ontariens sont plus nombreux, ils ont connu une croissance. C'est la seule province hors Québec où la francophonie a augmenté, et c'est vraisemblablement dû à l'immigration et les nouveaux arrivants francophones qui s'y installent. et qui s'installe majoritairement dans la région du Grand Toronto et même un peu vers le sud-ouest. Et si la tendance se maintient, alors qu'on compte dans l'Est ici 230 ou 240 000 franco-ontariens, et quand on combine le centre et le sud-ouest, on est à peu près à 213 000 environ, j'ai pas les chiffres devant moi, mais on prédit que si la tendance se maintient en termes de l'accueil de nouveaux arrivants francophones, le centre, le sud-ouest de l'Ontario pourrait regrouper le plus grand nombre de franco-ontariens. Et pour nous, comme communauté francophone, ça veut dire de mettre des énergies d'abord en l'accueil des nouveaux arrivants et aussi dans tous les services d'appui et de créer des regroupements, comme d'encourager la création de regroupements communautaires pour vivre cette francophonie dans cette nouvelle diversité qu'on lui connaît.
Et M. Denis Vaillancourt, si la tendance se maintient, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait peut-être un jour avoir nos villes parfaitement bilingues, comme la ville de Toronto?
C'est la vision. Hier soir, j'étais dans un banquet de la francophonie de l'Est d'Ontario ici, puis la thématique était justement « Oser notre francophonie
».
Et Maître Ronald Caza, que plusieurs d'entre vous connaissez sûrement, proposait un discours « il faut oser rêver, il faut oser avoir le courage de nos ambitions ». Et quand vous me dites « est-ce qu'un jour on aura un Toronto bilingue, une province bilingue », c'est le souhait que j'envisage pour l'avenir, et je pense que au fil des jours et des ans où la francophonie prend sa place à côté de la majorité, parce qu'il faut travailler avec la majorité, on aura les reconnaissances qui nous sont dues et nous aurons cette désignation cet engouement ou cette volonté de s'assurer que ça devient tout à fait normal de servir dans les deux langues officielles de ce pays. Et cette dualité linguistique, c'est quand même partie intégrale de l'identité canadienne.
Monsieur Denis Vaillancourt, merci beaucoup d'avoir été là. Ce que j'aimerais vous proposer, et j'aimerais que vous preniez le ferme engagement, voilà. Il y a des professeurs, hein, à mes côtés pour me corriger. Le ferme engagement de travailler tricoter serré, d'arrache-pied, de très près, avec toutes les composantes d'un coin à l'autre de cette province, cette belle province. Parce que, écoutez, vous êtes là depuis plusieurs années. Comment expliquer? C'est la première fois. On n'est pas là pour vous reprocher, non. Mais vous avez des assistants, des gens autour de vous, ou des collègues qui font un travail extraordinaire, hein.
Oui.
Grâce à eux, je pense, comment s'appelle-t-il, celui qui est un peu responsable de votre communication, là?
C'est Benjamin Vachet.
Oui, il est sympathique, il va chercher dans tous les coins de la province, il veut vraiment faire connaître vos activités. Et c'est ça qui manquait un peu dans le passé. Donc, vous êtes là, vous faites du beau travail pour nous, et grâce à vous, peut-être, il y a eu des avancées sur plusieurs plans. Mais il y a beaucoup de gens encore qui ne vous connaissent pas, Monsieur Vaillancourt, et qui connaissent encore moins votre association. Et est-ce que vous pouvez prendre le ferme engagement devant tous ces auditeurs ici et en ondes et sur le net que vous allez travailler avec des petits médias communautaires, francophones, des journaux du coin, mais aussi des universités, des gens dans le monde culturel, les alliances françaises, là où ça parle français, et des organismes bilingues aussi, hein, il y en a beaucoup qui desservent les francophones. Est-ce que vous pouvez prendre le ferme engagement de dire que les années qui viennent, là, les prochains mois, nous allons faire tout ce qui est possible pour promouvoir nos plans d'action, promouvoir nos projets, mais aussi échanger des idées, voir avec ces gens, quelles sont les peut-être idées qu'ils ont dans leur milieu pour faire avancer la langue française, pour faire avancer la culture francophone en Ontario. Est-ce que vous pouvez prendre cet engagement devant nous?
Bien, je peux le prendre volontiers, puis je peux vous dire que déjà, on est à permettre les assises d'une ce qu'on a appelé, ce qu'on veut appeler une nouvelle structure de concertation et de consultation. C'est effectivement les plus grands objectifs qu'on chérit avec le conseil d'administration, c'était davantage plus près des communautés pour justement échanger, écouter et ensuite se concerter pour agir dans des projets qui nous intéressent de façon locale ou régionale ou provinciale, et tout ça dans le but de faire...
Et sortir un peu de ces lourdeurs administratives, aller sur le terrain et puis présenter cette francophonie dans toutes ses couleurs, dans tous ses accents. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut, n'est-ce pas?
Écoutez, je termine une tournée de la province. C'est la deuxième que je fais depuis que je suis président. J'ai terminé une tournée de 25 communautés et je suis toujours disponible quand, tant qu'il se peut et selon le calendrier de me rendre à peu près n'importe où pour qu'on puisse entreprendre cette conversation-là sur le plan stratégique communautaire, les aspirations que nous chérissons et les défis qui sont devant nous pour les relever ensemble et pour le faire. Et j'aime toujours dire, dans cette grande diversité que la langue française nous donne en Ontario, et j'aime dire à qui veut l'entendre, si on est en Ontario et on parle français, nous sommes des franco-ontariens, nonobstant d'où on vient. C'est la francophonie ontarienne. Ce sont
et si la tendance se maintient, je pense que nous sommes la plus grande communauté francophone hors Québec.
Absolument, et nous voulons prendre notre juste place.
Merci infiniment et j'espère vous recevoir peut-être un jour en personne à l'émission, dans nos studios ou encore vous parler au téléphone. Merci encore une fois.
Ça me fera plaisir. Merci à vos auditeurs et bonne fin de mois de la francophonie, même si dans l'Est ontarien, il y a de la neige.
Merci, au revoir. Denis Vaillancourt, président de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario.
De 11h à 13h, Popourri Show sur CUT 89,5 FM vous donne rendez-vous à un cocktail aux saveurs de la francophonie. Cette 27e édition du Mois de la langue française est placée cette année sous le thème « Place au talent ». Comment se porte la charte de la langue française en 2014? De Montréal, Vancouver, Toronto, Paris, Dubaï, l'Afrique, les Antilles et les îles de l'océan Indien. Plusieurs invités seront au rendez-vous. Découvrez les enjeux, les projets et les défis qui animent la francophonie d'ici et d'ailleurs. Cinéma, immigration, diversité, littérature, droits de la personne, une francophonie en mouvement. Des témoignages chocs à vous faire réfléchir sur l'avenir de la langue française au Canada et dans le monde. Mois de mars 2014, Mois de la langue française avec Popourri Show et ses partenaires chaque dimanche de 11h à 13h. Faites-vous connaître, soyez parmi nos partenaires. Envoyez-nous vos coordonnées, vos idées à pot.pourri@sympatico.ca. De sincères remerciements au département d'études françaises de l'Université de Toronto, le journal Express de Toronto, Ciné Franco, et le Centre Canada Méditerranée Université York. Tout au long du mois de mars, on s'éclate, on s'explose sur CUT 89,5 FM avec Popourri Show, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde.
The sound of your city membership drive, April 9th to 15th. You may donate in advance right now by going to www.ciut.fm. Invest in the present and future of unique and diverse programming at CIUT. Right here, right now, every day. CIUT 89.5, the sound of your city.
Karim Ouellet, le grand gagnant du prix Juno hier à Winnipeg.
Ta route est tracée d'avance, alors tu gardes ce que tu penses pour toi. Pile ou face, ce sans importance, laisse décider la chance, cesse de demander pourquoi. Alors on peut dessiner des mots d'amour du bout des lèvres, on peut siffler comme un oiseau quand le soleil se lève, on peut laisser ses mots crever dans sa bouche et pleurer comme un bébé quand le soleil se couche. Qu'on est pour ou qu'on est contre et qu'il faudra choisir un camp. Ah non, allons voir s'il nous est permis de garder l'espoir. On peut dire à celle qu'on aime et qu'elle est belle. Recommencer tous les matins quand le soleil se lève. On peut viser tous les cœurs et ne jamais faire mouche et rentrer seul quand le soleil se couche.
Et oui, mesdames et messieurs, vous écoutez une émission spéciale dans le cadre de cette dernière émission qui clôture le mois de la francophonie. Et mes chers invités, co-animateurs, co-animatrices, des gens en studio ici, nous sommes vraiment très choyés, très chanceux d'avoir reçu beaucoup d'invités pendant tout le mois de mars. Mais pour nous ici, la francophonie continue tout au long de l'année. Ça fait 27 ans, je dis bien 27 ans qu'on est là à la barre de cette émission, la seule et l'unique émission en langue française à l'Université de Toronto. Si nous sommes là, c'est grâce au professeur Frédéric Case, qui n'est plus de ce monde, malheureusement, très regretté, mais qui était un des directeurs du département d'études françaises à l'Université de Toronto, qui se battait contre les discriminations, qui se battait pour qu'il y ait des études, que ce soit antillaises ou encore françaises, au niveau de la littérature, soit enseignées dans toute sa diversité. Vous vous souvenez, dans ces, oui, ces belles années, la belle époque, n'est-ce pas?
Chacun dit toujours c'est la belle époque, mais je crois qu'on vit quand même une belle époque encore. Et grâce à lui et à tous les autres qui nous ont précédés, justement, ça devient peut-être un peu plus facile, quoique les défis sont encore là. D'ailleurs, un des exemples, c'est que Fred a été d'origine guyanaise et c'était vraiment un des premiers directeurs à être nommé à ce poste-là et qui n'était pas canadien, qui est d'origine, qui n'était pas même français d'origine. Et ça montre que depuis, nous avons fait beaucoup de chemin.
Il voulait absolument que les autres accents, les autres voix soient entendues. Et nous avons commencé avec ce slogan, vous vous souvenez, au tout début, pour Pourri, c'était la voix des sans-voix. Parce que dans les médias, vous savez comment les médias forgent
la mentalité. Pour une radio,
la mentalité,
c'était quand même un peu... Hein?
Les médias forgent la mentalité, parce que les gens imitent, les jeunes imitent souvent ce qu'ils voient dans les médias. Et je trouve que maintenant, de plus en plus, dans les médias, on voit des personnages gays, lesbiennes, et il y en a même qui sont riches, millionnaires maintenant, qui animent des talk shows. Et je trouve ça formidable. Mais ils ont passé aussi peut-être par des crises, mais on a besoin d'avoir des modèles pour que ces jeunes ne se sentent pas isolés en pensant être gay, je ne pourrais pas être animateur. Mmh. Être noir, je ne pourrais pas être...
Directeur.
Directeur, oui, voilà.
Un professeur.
Alors, donc, nous avons commencé avec ce slogan, la voix des sans-voix, dans les années 87, dans ces coins-là, et ça dure encore. Mais il faut la relève, là. Donc, je compte sur Christopher et ses amis de l'école Sainte-Famille. Tu as des rêves, toi? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard?
Moi, j'aimerais construire mon propre entreprise.
Ah, oui?
Et j'ai l'intérêt à la politique.
Wow.
Un jour.
Peut-être tu pourras nous embaucher un jour. Vous savez, il y a tellement de choses à passer. Nous allons passer un dernier invité de Ciné Franco, mais aussi j'aimerais vous dire que j'ai lu un petit article. Peut-être on pourra en faire état la semaine prochaine. La laïcité en question dans 4 pays francophones. La religion peut-elle rester dans la sphère privée? 4 pays, 4 reportages et nos radios publiques partenaires avec nous, que ce soit de France, de Belgique, de Suisse et au Canada, offrent chacune un éclairage sur cette question. C'est très important, d'ailleurs la charte des valeurs au Québec, on en parle. Est-ce qu'on doit avoir une autre charte de la langue française? Est-ce qu'on devrait aussi avoir peut-être une charte de la langue française à la mairie de Toronto? Ça c'est une autre question. Alors, pour vous montrer que tous ces sujets font débat, est-ce que il y a des cas dans le passé, des cas précédents, maîtres, qui ont eu gain de cause?
Mais il y a une grande jurisprudence au niveau de la discrimination dans les services en raison de l'orientation sexuelle. Mais les cas dans le passé, c'était par exemple un individu allait au restaurant où il se disait non, on vous sert pas, vous êtes un homosexuel, ou il se faisait congédier de son emploi parce qu'il était homosexuel. Il y a un cas similaire d'un étudiant d'une école secondaire discriminé.
Où ça?
Je me souviens pas de son nom, c'est quoi son nom?
En Ontario?
Mark Hall.
Oui, et l'école lui refusait le droit d'apporter son petit ami homosexuel avec lui
au bal des finissants.
Oui, et finalement,
dans les journaux, oui.
Ça n'avait pas été décidé sur les faits. Il y avait eu un règlement et l'école lui avait versé une compensation. Mais la loi est claire. Les individus sont protégés contre la discrimination au niveau de l'identité sexuelle et l'orientation sexuelle dans les domaines des services, de l'emploi, de l'éducation, etc.
On vous revient dans un instant parce que Christopher exige un montant d'argent. Mais combien est-ce qu'il demande au conseil scolaire catholique? Eh oui, madame, monsieur, et aussi quelles sont les autres attentes de Christopher pour réparer ce dégât? Je vous rappelle que vous écoutez une émission spéciale. Vous avez encore quelques minutes pour nous joindre et passer vos commentaires au 416-946-7000. En attendant, nous allons descendre encore une fois à Ciné Franco, au Cinéma Royal. Un autre invité, gracieuseté de Ciné Franco, Boucherie Halal, oui, qui sera projeté samedi 5 avril à 13h30 au Cinéma Royal, en avant-première au Canada anglophone. Jamila et Heidi forment un couple uni. Pour mieux vivre au diapason de la vie québécoise, ils ouvrent une boucherie halal, madame, monsieur. Oh là là. L'harmonie règne jusqu'à l'arrivée du patriarche de la famille. Soupçonné de terrorisme, le patriarche est arrêté par la GRC et mis en prison. Un film qui tombe en pleine campagne des élections québécoises et le débat sur la fameuse charte des valeurs québécoises. Rencontre avec l'acteur Saïd Ben Youssef. Bonjour Saïd.
Bonjour.
Comment ça va?
Ben, ça va très bien, on a du soleil.
Il y a du soleil dans votre voix aussi, hein.
Merci.
Alors, merci mille fois d'être là. Vous êtes notre dernier invité aujourd'hui en ligne pour clôturer ce mois de la francophonie. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire sur le halal? Pourquoi?
Eh ben, écoutez, c'est une histoire qui fait partie d'une trilogie dont Babek avait entrepris un petit peu l'élaboration. Et donc, il l'a ouvert avec cette première partie qui est Boucherie Halal. Donc, il voulait parler de façon moins politique.
Ça crée polémique quand on dit halal, que ce soit en France, au Québec, surtout. Oui. Ça crée polémique.
Et Mais quand ça sert des fonds politiques, évidemment que ça crée des polémiques. Parce que les gens trouvent matière à polémiquer là-dessus et à fonder leur petit capital politique. Ce qui n'est pas le cas de l'objet et le but recherché par Babek, c'était tout simplement de raconter une histoire à partir d'un vécu, pas le sien, mais en tout cas ce qu'il a vu autour de lui, et exposer une problématique qui est avant tout une problématique humaine. Donc c'était beaucoup plus ça que d'aller chercher un petit peu ou d'aller un peu piocher dans le terrain politique.
Mais c'est de montrer aussi cette histoire de famille là.
Oui.
Et c'est un vrai débat, parce que moi, j'en connais des familles qui veulent porter le tchador, d'autres qui veulent garder certaines pratiques religieuses, et les jeunes ou les moins jeunes ou d'autres qui ne veulent rien savoir, ils veulent s'intégrer au Canada et vivre comme bon leur semble.
Oui, ça relève justement de la problématique des libertés d'une manière générale.
Ouais.
Et si ça revêt une acuité particulière, c'est que tout simplement parce que depuis quelques années déjà, cette problématique de l'islam en Amérique du Nord est interprétée selon les partis et alimentée selon d'autres. Alors là, nous avons un vrai débat de fond à partir, disons, d'une histoire structurée autour d'une famille et qui pose sur le double plan, d'abord sur le plan des libertés individuelles, mais des rapports un petit peu intergénérationnels qui existent. Et la culture héritée, en quelque sorte.
Alors, je ne vais pas dévoiler le clou de ce film, d'ailleurs, qui connaît un vrai buzz sur le net, je dois le dire, dans la communauté, soit francophone ou anglophone. Personne n'était différent face à votre film. Et j'ai hâte de vous rencontrer, hein, parce que Marcel Lynn m'a dit que des bonnes choses à votre sujet. Et elle était très, je dirais, curieuse de voir la réaction de son auditoire. Et donc, le film est projeté quand exactement? C'est le 5 avril, hein, samedi prochain.
Oui, le samedi prochain.
Et donc, juste avant les élections au Québec.
Bah, Oui, mais disons c'est le hasard du calendrier. mais c'est tant mieux parce que ça pose la vraie problématique. Ce n'est pas celle de la charte.
Vous savez, quand on lit votre biographie, on ne peut pas rentrer dans les détails, ça va prendre beaucoup de temps. C'est le genre d'homme de cinéma, peut-être mes collègues à mes côtés pourraient. Il y a des professeurs là aujourd'hui qui sont avec moi. Je dois faire très attention de ma diction et de la façon dont j'approche ce sujet, n'est-ce pas, Saïd? Mais ce serait bien de vous avoir. C'est le genre de personnage que j'aimerais avoir à cette émission pour nous parler de ces troubles, changements, comment on appelle ça, ces valeurs qui palpitent, parce que c'est ça la francophonie aussi, c'est ça la culture, ça bouge, n'est-ce pas?
Ça bouge, et puis on est sur un projet qui devait normalement rayonner, ou faire un petit peu bouger les choses dans le centre sud-ouest de l'Ontario.
Vous provoquez vraiment des débats, ça c'est sûr.
Absolument.
Alors, madame, monsieur, encore une fois, je vous rappelle, Boucherie Halal, à ne pas rater, c'est un petit bijou que vous propose, peut-être un peu choc, mais en même temps, vous allez voir les réalités de ces communautés qui vivent ici, dans nos régions, pas seulement à Montréal, mais aussi en Ontario, un peu partout au Canada, en Amérique du Nord, ça pourrait s'adapter, hein, dans plusieurs pays. Donc, samedi 5 avril au Cinéma Royal à 13h30. D'ailleurs, si cela vous intéresse, nous pouvons vous offrir un billet gracieuseté de Ciné Franco. Si vous allez sur le site www.cinéfranco.com, vous allez avoir tous les détails de ce film et aussi toute la programmation de Ciné Franco pour 2014. Alors, un mot pour terminer, peut-être à vos voeux sur la francophonie. Il y a beaucoup de gens ici au studio, mais aussi qui nous écoutent à la radio.
Moi, je crois que la francophonie, c'est comme le printemps. Ça s'apprécie et ça se développe. Il faut la nourrir, tout simplement.
Merci mille fois, c'est bien dit. On se voit bientôt, Saïd.
Merci. Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
Et là, nous entendons une franco-ontarienne, vous savez.
Il n'y a pas tellement longtemps. Vous vous rappelez au temps du...
Peut-être les gens dans la salle connaissent...
De la dentelle.
Cet artiste très torboise.
On se soulait dedans de bien. C'était la belle époque du piano nostalgique. Adieu rongueur qui nous suivait la semaine et savait nous réjouir quand nous vivions le pire. Mais déjà depuis longtemps, on vous a oublié. Vous n'êtes plus de notre temps. Restez dans vos musées. Ce sont vos pianos mécaniques que vous avez remplacés par des boîtes à musique qui pour 30 sous vous tirent de disques coup sur coup. Pourvu que ça joue, nous on s'en fout. Ce sont vos pianos tout usés qui se sont dû paralyser et qui ne sont plus qu'objets d'antiquité.
Eh oui, mesdames, messieurs, Nathalie Nadon, qui n'a pas entendu Nathalie Nadon, qui aussi fait beaucoup de bénévolat dans plusieurs associations. Je voulais, dans ce petit chapeau comme ça, des artistes francophones, surtout dans la région de Toronto. Peut-être l'année prochaine, on aura, vous voyez, cette belle salle de Carthouse, mes chers amis. Qui sait, peut-être un jour, on pourra avoir des musiciens, des chanteurs, des jongleurs, des artistes de tous bords, de tout calibre. Gay, homosexuel, hétérosexuel, qui que sais-je, tout le monde fait la fête ici lors d'une émission spéciale. Hein? C'est quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Alors, avant de terminer avec nos invités, mesdames, messieurs, j'aimerais qu'on aborde, d'ailleurs je vais demander à tous les gens qui sont autour de là-bas de venir se rapprocher de nous, si vous voulez, pour conclure l'émission, Maître Debusquet et Christopher Carras. Vous demandez quoi au conseil scolaire? Parce que ces gens nous écoutent, peut-être qu'il va y avoir des règlements hors tribunal, on ne sait pas. Est-ce que c'est possible?
On demande une réparation monétaire de 25 000 $.
C'est tout?
C'est tout, oui, c'est le maximum. Ah. Pour la détresse émotionnelle subie par mon client, ainsi que des réparations non monétaires pour le respect futur de la loi. Et je vais laisser mon client expliquer pourquoi on demande 25 000 $.
C'est très difficile émotionnellement pour un jeune queer de se faire exclure et de se faire dire que les homosexuels sont des criminels dépravés. C'est incomparable d'une vie normale. 25 000 $,
allégeront nos souffrances, mes souffrances.
Et au niveau du respect futur de la loi, alors, nous ici, on n'attaque pas le catholicisme ou le droit de l'école d'enseigner les valeurs principales de la religion catholique. Alors, les valeurs principales de la religion catholique sont Jésus était le Fils de Dieu, il est mort pour nos souffrances, il est revenu 3 jours plus tard, et il faisait la promotion de l'amour et de l'acceptation. Alors, nous, on n'a pas un problème avec ça. On n'essaie pas d'empêcher l'école de demander aux étudiants de lire la Bible ou de faire des catéchèses. Le problème, c'est quand ils font la promotion de livres qui n'ont rien à voir avec le catéchisme ou avec la religion comme telle, et qui dépictent les jeunes homosexuels comme des gens qui sont antisociaux.
Et il faut rappeler aux gens que là, on a pris, par exemple, le conseil scolaire, parce que c'est ça qui te touche, mais dans certaines communautés, on sait que, ou certains groupes religieux, il y a des extrémistes, et la vie de ces gens sont persécutés, même en danger dans certains pays. Il y a même des gouvernements qui passent des lois homophobes.
En Afrique,
le Ghana, par exemple, est un des pays, le président Poutine de la Russie, on a vu avec les Jeux de Sochi, le débat autour de ça. Et chez nous aussi, dans nos universités, dans nos écoles, il y en a encore des gens, peut-être ils se dévoilent pas trop, mais qui sont très homophobes. Donc, cette émission, j'espère, aura éclairé des gens à dénoncer ces ajustements et aussi des gens qui sont homophobes, parce que ce sont eux les vrais dangers de nos communautés, n'est-ce pas?
Mais les mentalités changent également. Je prends un exemple pas plus loin que ma propre mère, qui avait des valeurs très réticentes face à l'homosexualité, à mon homosexualité, et qui aujourd'hui est capable de parler de façon naturelle d'une famille non conventionnelle.
Mesdames, messieurs, voilà, c'est tout le temps qu'on a. On va applaudir, nos invités. Sinon. Je dois remercier Maître Jean-Alexandre Bebousquet. Ah, les gens sont nombreux. Christopher Carras, merci d'être là. Professeur Anne-José Villeneuve, j'espère que vous viendrez encore. Les portes sont ouvertes, les micros sont là.
Mais bien sûr, ça me fera plaisir.
Et nous avons aussi eu Monsieur Alain Minier, allez voir son film, Madame Monsieur, ainsi que le président de l'Association des communautés francophones en Ontario, c'est Denis Vaillancourt. Il y a aussi Benjamin Vacher, son conseiller en communication, qui peut-être nous écoute sur le net. Saïd Beni Youssef, que nous avons eu il y a quelques minutes. Professeur Pascal Michelucci, voilà, qui est le directeur du département d'études françaises, qui était là pour la première émission d'ailleurs pour co-animer avec nous au département d'études françaises de l'Université de Toronto, et professeur Daniel Issa-Sarier, qui est là chaque année, sans faute, mais aussi tout au long de l'année. Elle vient, elle part, et puis elle nous partage, elle fait toutes sortes de choses très intéressantes. Merci mille fois d'être là pour nous aider à animer ces émissions. J'espère que cela vous a plu.
Très bien, oui.
Et bien sûr, comment ne pas remercier RFI, l'Express de Toronto, Morgan, DJ Devera. Un applaudissement pour nos techniciens et nos réalisateurs ici. Marcel Lin de Ciné Franco, professeur Eddie Bouraoui. Un mot à la fin peut-être, ceux qui veulent prendre le micro pour dire un dernier au revoir, des souhaits peut-être à la communauté francophone. Allez, venez. Qui veut parler rapidement?
Bravo et longue vie à la francophonie.
Très bien.
Je suis de Djibouti et j'applaudis pour la francophonie.
Très bien. Formidable. J'espère que vous serez nombreux, madame, monsieur, lors de notre prochaine campagne d'adhésion. Le micro est à vous. C'est votre radio, c'est votre émission. Et merci mille fois d'être là. Merci à tout le monde. Au revoir.
N'oubliez pas d'aller à Ciné Franco.
Oui, surtout.
Et bonne francophonie, 365 jours par année.
Oui, nous sommes plus nombreux hors Québec. Il ne faut pas oublier.
Au revoir et merci de nous avoir invités.
Je vous en prie.
Au
revoir.
Au revoir.
Hi, this is John Valentine. Each and every week, I keep you informed and entertained with the latest news and music from the blues community, both here and abroad. So tune in on Thursday afternoons, beginning at 4 p.m. for John Valentine's Blues, for your window into the blues scene today. Only on CIUT 89.5 FM.
The sound of your city membership.
The Sound of Your City Membership Drive begins Wednesday, April 15th. But if you donate right now or before midnight, Tuesday, April 8th, you will be eligible to win one of our early bird draw prizes, which include a Samsung